Aujourd'hui, le thème de la prédication de ce matin sera la prière. Je voudrais commencer par vous lire deux citations. La première citation est la suivante. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui. C'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. La seconde citation est de Claude de Saint-Martin. La prière est pour l'esprit ce que la respiration est pour le corps. Alors si effectivement le message de ce matin est la prière, le sujet est un peu plus dur à entendre, puisque le sujet sera la prière inefficace du chrétien. Longtemps, je me suis posé cette question. Pourquoi la prière du chrétien, pourquoi ma prière est-elle inefficace? Alors je suis tombé par hasard sur un texte traitant de ce sujet et je m'en suis librement inspiré. J'ai longtemps travaillé ce texte. Vous pouvez me croire sur parole, j'ai retourné ce texte, je l'ai retourné à nouveau dans tous les sens, parce que je ne voulais pas vous livrer le texte tel qu'il était. Alors j'espère que tout comme moi, ce thème, la prière inefficace du chrétien, vous intéressera. Alors ce message n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que, en filigrane, il nous parle une fois de plus de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tout au long de ce message, 6 points seront développés. Pourquoi ma prière est-elle inefficace? Alors, je suis à peu près sûr que vous vous êtes déjà posé cette question et que tout comme moi, vous aimeriez en avoir une réponse. À tout le moins, vous espérez être un petit peu éclairé sur le sujet. Alors, prenons ensemble l'épître de Jacques, Jacques, chapitre 4, verset 2. Et 3. Jacques nous parle de la prière, et si j'ose dire, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il ne mâche pas ses mots. Vous convoitez, dit-il, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà ce que nous dit Jacques dans son épître. Maintenant, dans un langage un petit peu plus courant, voyons ce que dit ce même passage dans la version du Semeur. Alors c'est exactement le même passage, mais je vais lire un tout petit peu plus loin les versets jusqu'à 8. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Il y a des moments où l'on se demande si certains passages de l'Écriture sont bien destinés aux chrétiens que nous sommes. Tant le contenu met en évidence des points que l'on ne devrait pas trouver chez le croyant fidèle. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Sommes-nous vraiment concernés par un tel étalage de mauvais comportements? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que je me reconnais dans ce texte? Cet épître de Jacques est bel et bien destiné aux croyants que nous sommes. mes frères, c'est ainsi qu'il s'adresse aux personnes qui liront sa lettre. Et Jacques utilisera une douzaine de fois ces mots, mes frères. Cela ne laisse aucun doute. C'est bien à l'Église de Jésus-Christ qu'il s'adresse, c'est à vous, et c'est malheureusement à moi qu'il s'adresse. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des accusations telles que vous convoitez, vous êtes des meurtriers, vous vous consumez en jalousie, vous vous bataillez et vous vous disputez, vous demandez avec des mauvais motifs, et j'en passe, et des meilleurs, eh bien moi ça ne me fait pas plaisir d'entendre ces choses. Et pourtant, ne nous reconnaissons-nous pas dans cette description? Et je vais aller plus loin. Si nous ne nous reconnaissons pas dans cette description, c'est que peut-être nous sommes des hypocrites. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu que cette épître s'adresse bien aux enfants de Dieu, aux croyants que nous sommes, c'est-à-dire aux membres du corps de Jésus-Christ, le verset 5 va mettre des points sur les i, afin qu'il n'y ait aucun doute. Jacques s'adresse bien à des chrétiens. Écoutez ceci. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Sachant que l'Esprit de Dieu ne peut habiter que dans ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, nous devons faire amende honorable et reconnaître que Dieu veut nous dire quelque chose de particulier en ce qui concerne le domaine de la prière. Nombreuses sont les prières qui n'ont jamais été exaucées. Certes, Dieu reste souverain. C'est vrai. Nous devons bien le reconnaître. Mais cette réponse ne saurait être la seule acceptable, puisque l'apôtre Pierre nous dit qu'il peut y avoir des obstacles à nos prières. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Agissez ainsi, nous dit-il, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est donc qu'il peut y avoir des obstacles à nos prières. Saint Martin a dit « La prière est la respiration de l'âme ». Puisqu'il en est ainsi, nous devons reconnaître que divers facteurs peuvent gêner cette respiration et provoquer des troubles suffisamment graves pour que la prière ne produise aucun effet. La prière inefficace du chrétien est sans doute l'une des causes principales de la tiédeur du chrétien, de son manque de persévérance dans ce domaine et finalement de l'abandon de la foi. L'apôtre Jacques, conduit par le Saint-Esprit, va donc mettre en lumière tout ce qui pourrait faire obstacle à nos prières. Une fois de plus, ma place est bien parmi vous. Je ne vous fais pas la leçon, je me la fais à moi-même. Le premier point que je voudrais aborder, c'est d'abord la convoitise. Vous convoitez, nous dit l'apôtre Jacques. C'est une constatation, c'est un fait. Vous convoitez. Une attitude qui nous ramène aux 10 commandements. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode, chapitre 20, verset 17. Si certaines de ces convoitises ne nous concernent plus, je pense particulièrement à l'âne et au bœuf, nous pourrions quand même convoiter certains biens de ce monde, des biens qui ne nous appartiennent pas et que nous voulons absolument posséder. Alors j'ai bien dû trouver un exemple et j'ai pris comme exemple l'iPhone, le dernier modèle de l'iPhone. Vouloir à tout prix le posséder, c'est de la convoitise. Alors ici, je ne vise personne. Croyez-moi bien, je ne vise personne. Moi-même, j'ai un iPhone, et je regarde toujours après le dernier modèle. Si je devais viser quelqu'un, je me viserais en premier lieu. Mais si nous ne sommes pas branchés nouvelles technologies, il y a tant de domaines. Il y a tant de domaines où nous pouvons trouver des choses où nous sommes tentés. Qui de nous n'a jamais envié la magnifique voiture, une splendide Mercedes, hein, belle voiture de son voisin ou alors sa superbe villa. Qui de nous n'a jamais envié cela? Les biens de ce monde sont tellement attirants pour les humains que nous sommes. Pour cette raison, la convoitise, l'apôtre parle sans ménagement à son auditoire. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ne pourrait-on pas comprendre ce passage, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, comme ceci? Si nous désirons faire partie du monde, si nous voulons être acceptés par le monde, si nous voulons être reconnus par le monde, fatalement, nous ne pouvons pas rester amis de Dieu. Tôt ou tard, nous abandonnerons le Seigneur, car le monde a ses convoitises que l'amour de Dieu ne peut accepter. L'amour du monde, c'est le mensonge. Ce sont les faux semblants, c'est le tape à l'œil. Méfions-nous des miroirs aux alouettes. Derrière la convoitise se cachent des chasseurs qui nous veulent du mal. Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15, illustre ce qu'est la convoitise. Mais, nous dit Jacques, chacun est tenté. Il n'y a pas d'exception. Chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultère. Adultère, cela signifie que nous trompons Dieu avec quelqu'un d'autre, le monde. Alors je ne parle pas ici d'aller au cinéma, je ne parle pas ici d'aller au spectacle, je ne parle pas non plus d'abandonner nos amis non chrétiens. Non. Bien que Jésus dira, Matthieu chapitre 18, verset 9, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie en n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Si ce que font tes amis, si ce que tu vois, si ce que tu entends de leur part est pour toi une occasion de chute et que tu es tenté, si c'est quelque chose que tu convoites, si tu as envie de faire la même chose, alors sépare-toi de ses amis, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour ta relation avec Dieu. Et il est clair qu'en nous rendant ennemis de Dieu, nos prières sont inefficaces. Notons encore que Jacques montre que malgré le fait de convoiter, l'objet, lui, reste souvent hors de notre portée. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Nombreuses sont les prières qui n'ont pas été exaucées, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nombreux aussi sont ceux qui se sont rendus malades à cause de l'obsession de posséder à tout prix l'objet de leur convoitise. Combien de personnes se sont endettées pour satisfaire leurs désirs immodérés? Cette attitude de convoitise, nous le comprenons bien, ne favorise pas une bonne respiration de l'âme et fait obstacle à de nombreuses prières. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Jacques va continuer sur sa lancée sans mâcher ses mots. Il va maintenant employer un langage à peine supportable pour nous qui sommes de braves enfants de Dieu. Le deuxième point que je voudrais aborder est le suivant. Vous êtes meurtriers. Alors, je dois reconnaître qu'en lisant ce texte, j'ai pensé que l'apôtre y allait un peu fort. Quoi, moi, un meurtrier? Je n'ai pourtant pas du sang sur les mains. Alors que veut-il nous dire? Vous êtes meurtrier. Pour comprendre la pensée de Dieu, car c'est bien de la pensée de Dieu dont il s'agit, et non de celle d'un homme, nous sommes invités à consulter la Bible, parce que la Bible s'explique par elle-même. Dans son épître, l'apôtre Jean dira « quiconque est » du verbe « haïr ». « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Et vous le savez, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Patatras, mes amis, la sentence est tombée, je suis donc bien un meurtrier. Ai-je toujours aimé mon frère? Non, je ne le pense pas. Je n'ai tué personne physiquement, mais hélas, ce soulagement ne peut être que de courte durée, puisque la haine, le ressenti envers mon frère, est synonyme de meurtre aux yeux du Seigneur. Et c'est tellement grave que l'apôtre Jean nous dit que celui qui se trouve dans cette situation n'a pas la vie éternelle en lui. Dès lors, je peux comprendre qu'une grande partie de mes prières soit restée inefficace parce que mon cœur n'était pas en paix avec mon frère. Avec mon frère, mais aussi avec mon prochain, qu'il soit enfant de Dieu ou non, car la parole de Dieu est clair à ce sujet. Romains, chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors, ai-je encore une petite rogne contre quelqu'un? Si oui, eh bien je dois absolument laisser la colère, abandonner la fureur et ne plus m'irriter. Psaume 37, verset 8 et 9. « Laisse la colère. Et abandonne le courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. » En poursuivant l'inventaire de ce qui fait obstacle à nos prières, Jacques nous fait passer au point suivant, l'envie. Alors d'emblée, nous constatons que l'envie possède des liens de parenté avec la convoitise. Le troisième point est le suivant, vous êtes envieux. Vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. L'envie désigne un sentiment obscur, lâche, haineux, causé par la seule vue du bonheur d'autrui, alors même qu'il n'y a aucun espoir d'en jouir soi-même. Le bonheur de l'autre nous fait mal. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une définition du Larousse. La convoitise, quant à elle, désigne un désir immodéré et illicite, un penchant déréglé qui nous porte toujours à tenter d'obtenir ce qui appartient à autrui. Et c'est de nouveau pas moi qui le dis, c'est encore le Larousse, l'une et l'autre. La convoitise et l'envie produisent la non-satisfaction, puisqu'il est dit « vous ne possédez pas, vous n'obtenez pas ». Pour un chrétien, et retenez bien cette phrase, peut-être que c'est la phrase la plus importante de cette prédication. Pour le chrétien, c'est une bénédiction cachée de ne pas obtenir l'objet de nos envies, de nos convoitises. C'est une bénédiction cachée. Je ne sais pas si vous connaissez Janis Joplin, parce que c'est une chanteuse qui chantait à Woodstock en 1969, donc ça ne date pas d'hier. Et elle est morte d'une overdose à l'âge de 27 ans, mais elle dira ceci dans une de ses chansons. « Oh Seigneur, tu ne voudrais pas me payer une Mercedes-Benz. Tous mes amis possèdent une Porsche, et je dois y remédier. J'ai travaillé dur toute ma vie, sans l'aide de mes amis. Alors, Seigneur, est-ce que tu ne voudrais pas me payer une Mercedes-Benz? Oh Seigneur, tu ne voudrais pas me payer une télévision couleur? » Nous sommes en 1969. Le transporteur essaye de me trouver et j'attends la livraison chaque jour jusqu'à 3 heures. Alors, Seigneur, ne voudrais-tu pas me payer une télévision couleur? Oh Seigneur, tu ne voudrais pas me payer une virée nocturne en ville? Je compte sur toi, Seigneur. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Prouve-moi que tu m'aimes et paye la prochaine tournée. Eh bien, mes amis, si c'est cela notre prière, alors c'est une bénédiction de Dieu lorsqu'il crée l'impossibilité de posséder. Dieu agit ainsi, afin, nous dit l'apôtre Jacques, afin que ses enfants ne tombent pas dans le péché et puis dans la mort. Soyons reconnaissants si le Seigneur a fermé les portes pour que nous n'obtenions pas ce que nous convoitons ou ce que nous aurions pu envier. Soyons reconnaissants et ne cherchons pas à passer par-dessus la volonté de Dieu. Car si nous n'abandonnons pas notre folie, si nous n'abandonnons pas notre folie, nous aurons à en souffrir par la suite. Rien de nouveau sous le soleil. Tu ne voudrais pas me payer une Mercedes-Benz. Tous mes amis roulent en Porsche. Est-ce que vous n'avez jamais entendu cette phrase ? Les autres partent en vacances. Ou les autres possèdent ceci ou cela. Une piscine, une cuisine équipée, que sais-je. Alors pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit à la même chose ? Les médias nous poussent à convoiter, à envier. J'ai un jour reçu un mail disant ceci, c'était la semaine qui précède la Noël. Réveillon magique. 100 recettes de Noël pour épater dès l'entrée. Pas pour nourrir mes invités. Hein. Non. Pour les épater. Devons-nous toujours épater l'autre ? Devons-nous toujours donner envie d'être convoité, d'être envié ? Et quand je dis « soyons reconnaissants de ne pas être exaucés », je devrais dire « mes amis, humilions-nous. Humilions-nous devant la face de Dieu pour avoir eu le même genre de pensée, pas les mêmes pensées, mais le même genre de pensée que ce que l'apôtre dénonce. Croyez-moi, ce sera un obstacle de moins à l'exaucement de nos prières. Passons maintenant au point 4. Vous avez des querelles et des luttes. C'est en quelque sorte une suite logique de ce qui vient d'être dit. C'est non seulement une suite logique, mais les conséquences de la convoitise, de l'envie, du ressentiment envers son frère, ce sont des querelles et des luttes. N'oublions pas que Jésus considère la haine de son frère comme un meurtre. La convoitise, l'envie, le ressentiment, ce sont là les fruits des œuvres du monde. Ce sont là les fruits qui empoisonnent la vie de tous les membres du corps de Christ. Et nous sommes bien obligés d'avouer que les ressentiments que nous avons les uns envers les autres, les querelles et les luttes de pouvoir, même au sein de l'Église de Jésus-Christ, il y a des luttes de pouvoir. Nous sommes bien obligés d'avouer que tous ces sentiments négatifs rendent nos prières inefficaces. Quoi que nous en pensions, une simple antipathie, de l'aigreur envers un frère ou une sœur, nous empêche de bénéficier de la présence du Seigneur. Même si Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis au milieu d'eux ». En effet, pour être assemblés en son nom, faut-il encore que nous soyons en paix les uns avec les autres. Le simple fait d'être ensemble dans le même local ne veut pas dire que nous sommes ensemble dans l'unité de la foi et de la paix. La paix, et non l'animosité cachée au fond de nos cœurs, nous permettra d'être en accord dans nos prières, un accord qui ouvrira les écluses des cieux et permettra à notre Père Céleste de nous bénir. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 19. Sans accord avec mon frère, sans accord avec ma sœur, nos prières manquent d'harmonie. Et nos amens sont faux. Ce dont il faut se souvenir avant tout, ce sur quoi nous devons insister, c'est que nous devons pardonner librement, franchement, généreusement, exactement comme Dieu le fait avec nous. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que le pardon mène à Dieu. Le pardon mène à Dieu. La haine mène à Satan. En passant au point suivant, nous allons nous trouver devant une affirmation qui tombe sous le sens. Mais cette phrase est intéressante et elle mérite d'être examinée de plus près. Le cinquième point, c'est « vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Cette logique va nous conduire à réfléchir au contenu de nos prières. En effet, si parfois nous ne recevons rien, c'est parce que, effectivement, nous n'avons rien demandé. Mais cette phrase ne dit pas « vous n'avez pas prié, donc vous n'avez rien reçu ». Non, ce n'est pas cela. Nous avons effectivement exposé en long et en large notre problème au Seigneur, mais sans rien lui demander ouvertement, sans lui demander quelque chose de spécifique, de concret. Notre pasteur, Jacques, nous a déjà donné cette anecdote, mais je vais quand même vous la rappeler. C'est l'histoire de Hudson Taylor, missionnaire en Chine, qui priait tous les jours pour obtenir une bicyclette dans le but de pouvoir gagner du temps. Gagner du temps pour faire encore plus de visites sur le chemin de mission. Et jour après jour, il priait avec foi, mais il n'obtenait pas sa bicyclette. Un jour, alors qu'il priait, le Seigneur lui dit « Mais oui, mais moi je veux bien te donner un vélo, mais tu ne m'as pas dit la marque, ni la grandeur du cadre, ni la couleur. » Hudson Taylor, alors, fit connaître à Dieu de façon précise ce dont il avait besoin. Quelques jours plus tard, une personne inconnue lui apportait un vélo comprenant toutes les caractéristiques demandées à Dieu. Certainement, nous avons remercié le Seigneur pour toutes les roues de secours qu'il nous a gracieusement envoyées pour nous dépanner. Mais lui avons-nous déjà demandé une roue neuve? Souvent, nous allons de l'avant sans penser un seul instant que Dieu avait mieux à nous donner que ce que nous avons demandé jusqu'à présent. Demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Mes amis, chers frères et sœurs, ne craignons pas d'importuner Dieu. Rappelons-nous la parabole de notre Seigneur Jésus. Simplement, ce qu'il faut retenir de ce cinquième point, c'est qu'en ne demandant rien, nous n'obtiendrons rien. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, hein. Il faut remettre cette phrase dans son contexte. Il ne suffit pas de retirer un verset de la Bible afin d'obtenir tout ce que nous désirons, tout ce que nous convoitons. Ne faisons pas la même prière que Janis Joplin. Ce serait offenser Dieu. Soyons sérieux dans nos demandes. Il va de soi que si nous voulons obtenir quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est encore d'en faire la demande. Mais attention, parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique dans lequel il suffit de glisser sa carte de banque, ou mieux, de glisser une petite prière afin d'obtenir l'objet de la demande. Eh bien, nous arrivons à notre dernier point. Notre sixième point est le suivant, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est peut-être là qu'est le nœud du problème. Quel était le contenu de mes prières non exaucées? Ai-je demandé le superflu ou ai-je demandé le nécessaire? Alors le nécessaire, c'est-à-dire ce dont j'estime avoir besoin. Mais ce dont j'estime avoir besoin, n'est-il pas du superflu quand d'autres manquent cruellement du minimum vital? Ne devrait-on pas se souvenir des paroles de l'apôtre Paul qui, inspiré par le Saint-Esprit, nous communique la pensée de Dieu? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et j'ose à peine reprendre ces paroles. Quoique je sois conscient qu'il y a plusieurs millions de personnes sur cette terre qui ne mangent pas à leur faim et qui sont vêtues de haillons. Sachant cela, mes amis, nous devons les uns et les autres dire humblement « Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-moi à prier convenablement, correctement. » Le superflu n'est-il pas justement ce que nous demandons dans nos prières? Tout ce qui n'est pas indispensable pour vivre est du superflu. Alors oui, je suis bien d'accord avec vous, hein, les besoins de notre époque ne sont pas le besoin du passé. Mais les temps changent. Les temps changent et peut-être allons-nous vivre des temps difficiles. Je ne me réjouis pas de vivre des temps difficiles, mais peut-être allons-nous les vivre. Alors nous serons bien obligés, oui, de retourner à l'essentiel et au vital. Peut-être que dans ces temps difficiles, nous retrouverons la vraie richesse. La vraie richesse, c'est-à-dire la foi. Écoutons ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet dans l'épître à Timothée, 1 Timothée, chapitre 6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Mes amis, les cercueils n'ont pas d'attachement. Nous n'emporterons rien. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs. Des désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et ils se sont infligés beaucoup de tourments. La véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Voilà, je viens de développer les 6 points importants de ces 2 versets qui nous montrent les obstacles à l'efficacité de nos prières. Pour terminer, je voudrais dire ceci. On peut, en toute conscience, prier pour plusieurs motifs, tout à fait personnels. Il y a des chrétiens qui ne prient jamais pour eux-mêmes. Et je faisais partie de ces chrétiens. Mes amis, si vous êtes comme ces chrétiens qui ne prient jamais pour eux-mêmes, si vous êtes comme ces chrétiens qui ont peur d'importuner Dieu, Dieu, leur Père, permettez-moi de vous dire, vous avez tort. Nous pouvons prier pour nous maintenir en bonne santé. Nous pouvons prier pour être guéris, pour ne plus souffrir. Nous pouvons prier pour ce que l'on aime. Nous pouvons prier quand nous avons besoin d'argent. En vérité, nous pouvons oser prier pour 1000 choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Car notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu désire que ses créatures, il désire que ses enfants jouissent pleinement de la vie. Souvenons-nous de ce verset qui se trouve dans la première lettre à Timothée. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ce sont là toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons prier et Dieu déterminera le bien fondé de nos requêtes. Quand le but de la vie d'un homme est le plan de Dieu, toutes choses peuvent être demandées librement selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et il n'est pas nécessaire de se creuser la tête. Et il n'est pas nécessaire de réfléchir profondément pour savoir si nous sommes en droit de demander telle ou telle chose. Si son plan pour nous est tout autre, si Dieu ne nous répond pas exactement comme nous l'avions espéré, n'oublions pas que son plan reste un plan d'amour. Bien avant que nous adressions notre prière à Dieu, Dieu connaît le but de nos cœurs. Et il connaît, oui, il connaît si nos désirs correspondent à nos besoins. Et il connaît si nos désirs correspondent à son plan d'amour pour nous. Et il connaît si nos désirs ne nous mènent pas sur le chemin très large de la perdition, au lieu de nous maintenir sur le chemin étroit qui nous mène à la vie. Avant toute chose, Dieu désire que nous nous approchions de lui. Avant toute chose, Dieu désire une relation intime, profonde et authentique avec sa créature, avec son enfant. Et c'est cette relation avec Dieu qui est, et de loin, mes amis, la chose la plus importante que tout chrétien devrait demander dans ses prières. Et croyez-moi, si nous demandons de telles choses, la foi, la paix, la sagesse, la bienveillance, à la place d'une Mercedes-Benz ou d'une TV en couleur. Croyez-moi, toutes ces choses nous seront accordées et notre Père Céleste nous accordera avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, tu ne m'as pas toujours exaucé, c'est vrai, et je t'en remercie. Ai-je toujours demandé ce qui est nécessaire? Non, je ne le crois pas. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, tu m'as racheté et je t'appartiens et je veux faire ta volonté. Ô Père, dans le nom du Seigneur Jésus, merci pour les réponses que tu nous donneras. Tu es notre secours. Tu es notre bouclier. Tu es le Dieu de notre espérance. Tu es pour toujours Jéhovah Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Et notre Dieu pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen.